Voilà, vous vous souvenez que les derniers psaumes que nous avions vus, c'était le psaume 110, psaume pascal, psaume royal et sacerdotal. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, donc il convient pour l'exaltation du Christ, et puis l'affirmation, tu es prêtre à jamais, selon l'ordre du roi Melchisédek, qui désigne son caractère sacerdotal. Ce psaume a eu un grand écho dans la proclamation pascale. Alors, après cela, nous avons vu le psaume du bon berger, psaume 22-23, dont on a vu qu'une des richesses, c'est qu'il se prête, ou qu'il est bien connu, qu'il est simple et beau sur ces 6 versets, mais qu'il se prête bien à une utilisation liturgique, et ce fut le cas dès le début de l'histoire de l'Église, pour les nouveaux baptisés s'acheminant du baptistère vers l'Église, où ils allaient recevoir les autres sacrements de l'initiation, à savoir la confirmation et la communion. Puisque près des eaux du repos il me mène, me fait revivre, c'est le baptême. L'onction de parfum sur ma tête, c'est l'onction qui peut convenir aussi à la confirmation. Et puis tu prépares la table pour moi, ma coupe, le mantille de joie, peut convenir pour l'Eucharistie. Et en plus, le verset « Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, tu es avec moi » font que c'est un psaume aussi utilisé pour les liturgies de funérailles. Donc un psaume qui a quand même une belle richesse d'application dans le Nouveau Testament et pour la liturgie. Puis nous avons vu le psaume 50-51, « Miserere, prends pitié », qui est le psaume de demande de pardon du roi David, après sa faute, qui était quand même grave, faute d'adultère et de meurtre, et de dissimulation. Nous avions vu qu'un caractère de ce psaume, c'est qu'il dessine un cheminement spirituel, et on va le retrouver avec d'autres psaumes. Là, c'est un psaume plus long, donc, et on entend d'abord la demande de pardon du roi David, l'aveu de sa faute, sa demande de pardon, et puis on sent qu'à un moment donné, dans le psaume, il a conscience du pardon reçu, et donc c'est alors la joie qui l'envahit et le désir d'annoncer cette bonne nouvelle de la miséricorde de Dieu à ses frères. Ça, c'était pour le psaume 51. Alors nous allons aborder maintenant un psaume de caractère, je dirais, de supplique, non plus pour la demande du pardon des péchés, mais pour demander d'être délivré d'une situation d'angoisse, de souffrance, qui ne tient pas nécessairement au péché, mais qui peut être la situation d'un persécuté. Nous allons prendre le psaume donc 130-129 qui est appelé le De Profundis, des profondeurs, je crie vers toi Seigneur, ce sont les premiers mots du psaume. Ce sont les pages que je vous ai données aujourd'hui. Ou déjà la fois passée. Déjà la fois passée. Hein, donc vous devez les avoir. Page 29. Hein, la page 29 qu'on commentait. Et puis le texte du psaume, ce qui tient en une page, les diverses versions, psaume 130. Donc, il y a la page 29 du commentaire et le texte du psaume 130. Ça va, vous vous y retrouvez? Nous allons d'abord simplement le lire. Donc je prends le texte dans la version courante, en haut à gauche de la page. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, attend le Seigneur Israël. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat, c'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Donc c'est quand même encore un psaume de demande de pardon. Ce que je vous ai dit vaudra pour le psaume 22 qu'on verra après, qui est une supplique dans une situation de souffrance. Ici, c'est encore comme le psaume 51, un psaume de demande de miséricorde du Seigneur. Les premiers mots en hébreu qui ne sont pas repris, c'est le verset 1a, Shir Hamma'alot, ça veut dire Shir, chant, psaume, Hamma'alot, des montées. C'est un de ces psaumes. Je vais expliquer à l'instant que l'on prend lorsque l'on monte en marche de pèlerinage vers Jérusalem. C'est l'avant-dernier des psaumes, il y a 7 psaumes qui sont identifiés comme étant davantage des psaumes de pénitence. Je vous ai mis la liste, vous y retrouvez le psaume qu'on a vu la fois passée, le psaume 51, le psaume de David. Et puis, j'ai mis en lettre grasse le psaume que nous allons voir, et plus loin, comme c'est l'avant-dernier, il y a encore un dernier psaume de pénitence, c'est le psaume 143. Donc, je vous lis les premiers versets. Seigneur, entends ma prière, 143 dans l'hébreu, 142, autre numérotation. Seigneur, entends ma prière, dans ta justice, écoute mes appels, dans ta fidélité, réponds-moi. N'entre pas en jugement avec ton serviteur. Aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi cherche ma perte, etc. Donc la conscience que si le Seigneur avait un jugement impitoyable, eh bien, il ne tiendrait pas sous son regard. J'y referai allusion à ce dernier psaume de pénitence tout à l'heure. Pour le moment, nous sommes au psaume 130. C'est une lamentation individuelle. Vous savez qu'il y a parfois de belles confessions collectives. Hein. J'ai fait allusion peut-être déjà à celle qu'on trouve en Daniel 9 ou au livre de Baruch, toute une liturgie pénitentielle, à nous la honte au visage, mais à toi Seigneur, la justice, la miséricorde, etc. Là c'était des psaumes, des passages pénitentiels de l'Ancien Testament. En nous ici, c'est une lamentation individuelle. Le « je » du psalmiste s'exprime des profondeurs, « je crie vers toi Seigneur ». Le psalmiste implore dans l'espérance le pardon pour lui-même et aussi pour Israël. Il va y avoir un second temps où, vers la fin, il est question du rachat espéré d'Israël. Dans l'agencement du psautier, il fait partie en son cinquième livre, le cinquième livre du psautier, du sous-ensemble dit « Chant des montées ». Quand faire leur titre, il vous dit « Shir Hamalot, chant des montées ». Entendons les montées des pèlerins vers Jérusalem. Et ces chants des montées, ce sont les 15 psaumes, numérotés de 120 à 134, et à propos desquels la Mishnah, c'est un premier recueil de la loi orale juive sur la Torah écrite. Vous savez qu'il y a la loi écrite, et puis que dans le premier siècle spécialement, se sont développés beaucoup de commentaires oraux, dont un premier recueil s'appelle la Mishnah, et puis après il y aura d'autres commentaires, et on va arriver à la compilation du Talmud, qui va recueillir la mise par écrit de tout ce qui aura été d'abord des commentaires oraux. Mais donc, la Mishnah évoque, à ce propos de ces 15 psaumes, les 15 marches qu'il fallait gravir pour accéder dans le temple au parvis d'Israël. Il y a le parvis des gentils, des païens, C'est-à-dire, mais dans le parvis, à un moment donné, d'Israël à proprement parler. Ces psaumes sont dits graduels, c'est-à-dire qu'on franchit les degrés. Cantique des degrés. Ils sont brefs, et de fait ici, vous voyez, il y a 8 versets. Pourquoi ? Pour le pèlerin qui doit pouvoir les dire par cœur, en montant vers Jérusalem. Et ils sont scandés de reprises qui soutiennent la mémoire. Comme dans des chansons, j'ai peut-être déjà fait allusion à des chansons populaires qui soutiennent la mémoire ici. En passant par la Lorraine avec mes sabots, hein, et puis je ne suis pas si vilaine avec mes sabots, et puis on reprend et on continue. On réembraye chaque fois sur ce sur quoi on vient de terminer. Il y a quelque chose de ceci dans le psaume. Par exemple, ici, si je prends le texte, pour mieux percevoir cela, il faut le prendre dans la traduction littérale, celle que vous avez dans l'encadré en dessous, hein, sur la même feuille. Qui est la traduction du père Rademakers, qui n'est pas très élégante, mais qui a l'avantage de rendre un même mot hébreu toujours par le même mot français. Bien, vous voyez, des profondeurs, je t'ai appelé. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de ma supplication. Ou bien, au verset 5, c'est surtout vers la finale que ça se marque, j'ai espéré le Seigneur, elle a espéré mon âme. Et sur sa parole, j'ai compté. J'ai compté, qui va être saisi encore au verset 7, compte sur le Seigneur Israël. Plus que les veilleurs, tendus vers le matin, mais ça revient deux fois, au verset 6, mon âme est tendue vers le Seigneur, plus que les veilleurs vers le matin. Et puis, plus que les veilleurs, tendus vers le matin, compte sur Israël, sur le Seigneur Israël. Et enfin, dans la dernière section, le verset 7b et 8, la mention du rachat, au sens de la miséricorde faite par Dieu. Avec lui, avant le rachat, lui rachètera Israël de toutes ses offenses. Donc, on ne craint pas de reprendre des termes pour soutenir la mémoire et une prière qui entre ainsi par répétition dans le cœur. Alors, le mode locutoire et le mouvement du psaume, on sent que le psalmiste est tendu vers Dieu. Et d'ailleurs, les désignations du Seigneur ne manquent pas. Vous voyez dans la transposition, Père Rademakers, que le tétragramme, les quatre lettres qui désignent Yahvé, qu'on prononce Adonai, reviennent plusieurs fois, 4-5 fois, et trois fois. Le Seigneur, qui dans le texte hébraïque est là, Adonai, écrit. Il y a l'Adonai prononcé lorsqu'on voit les quatre lettres, et puis il y a l'Adonai qui est écrit et qu'on lit comme tel, qui veut dire littéralement mon Seigneur. Ça, c'est deux manières de désigner dans le Seigneur, mais donc vous voyez sur 8 versets, il y a 8 mentions du Seigneur, soit sous la forme du tétragramme, soit sous la forme Adonai. Ça, je vous dis, le psalmiste est vraiment tendu vers Dieu. Deux parties. La partie qui va jusqu'au verset 6a et puis la finale. Et d'ailleurs, à l'heure charnière, entre ces deux parties, c'est l'expression « plus que les veilleurs vers le matin » et puis « plus que les veilleurs vers le matin » qui vient ensuite. Une expression qu'on trouve aussi à Qumran. Donc ce site où il y avait une communauté des Esséniens très pieux qui connaissaient, pratiquaient, priaient l'écriture aussi. Dans la première partie, le jeu du psalmiste commence par s'adresser à Dieu en tu. Des profondeurs, je t'ai appelé. Si tu observes les offenses, Seigneur, là je suis sur la traduction littérale, avec toi et le pardon. De sorte que tu sois craint. Et puis après cette adressée à lui, on va parler de lui. En troisième période, j'ai espéré le Seigneur et elle a espéré mon âme sur sa parole. J'ai compté, etc. Commence par s'adresser à Dieu en tu. Pourquoi ? Pour le supplier. Il y a une supplique initiale. Des profondeurs, je t'ai appelé Seigneur. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de ma supplication. Mais on ne connaît pas encore l'objet de cette supplication, la raison. On va comprendre que c'est une supplique pour demander le pardon. Verset 3. Qui aspire à la remise des offenses. Et comme souvent, le psalmiste dit « Je crie vers toi », il en donne la raison, et puis il fonde l'espérance d'être exaucé en disant « Car avec toi », c'est le verset 4, « est le pardon de sorte que tu sois craint. » La crainte au sens biblique aussi, hein, qui n'est pas une terreur de Dieu, mais une vénération respectueuse. De sorte, « Avec toi est le pardon de sorte que tu sois craint. » J'ai appelé, je fais comprendre au Seigneur que ce que je demande, c'est le pardon des offenses. Si tu observes les offenses, Seigneur, qui tiendra debout? J'ai lu à l'instant dans le psaume 143, « Nul vivant n'est justifié devant toi, personne n'est exempt de péché. » Et donc, il faut que Dieu exerce sa miséricorde. Ça, c'est la première partie de cet ensemble 1 à 6a. Ensuite, au verset 5 et 6, le psalmiste, qui passe alors au rapport à Dieu, non plus en toi, mais à lui, affirme la confiance en Dieu de son âme, « J'ai espéré, j'ai compté », et utilise recours à cette belle image des veilleurs dans la nuit. La seconde partie commence alors sur cette même image, « Plus que des veilleurs tendus vers le matin », verset 6b, mais pour inviter Israël, cette fois qui est mentionné deux fois, hein, verset 7, « Compte sur le Seigneur Israël », et verset 8, « Lui rachètera Israël de toutes ses fautes ». Donc on comprend que de la demande de pardon pour lui-même, d'abord, ou bien le psalmiste passe à la demande de pardon pour tout le peuple. Si ça faisait le porte-parole. Il invite Israël cette fois à compter sur le Seigneur. De même, il y a un car qui fonde l'espérance exaucée, car avec le Seigneur est la tendresse et abonde avec lui le rachat. Déjà au verset 4, il disait avec toi est le pardon, et bien avec lui le Seigneur est le rachat, la tendresse. Lui rachètera Israël de toutes ses offenses. Verset 3, c'était si tu observes les offenses, ici il y a comme une totalisation finale, lui rachètera Israël de toutes ses offenses. Alors le terme de rachat comprend parfois par le terme de rédemption. Ça vient du verbe latin redimere, qui veut dire racheter. Donc rédemption, c'est le terme servant pour dire rachat. Et c'est une notion importante dans la Bible. On pouvait, dans une situation où il y avait eu litige, racheter un bien. C'est un terme utilisé aussi pour le rachat d'un esclave qui sort de sa condition d'esclave pour être libéré. Mais c'est aussi le terme du rachat que Dieu octroie dans le sens du salut. C'est au départ un terme de droit tribal et familial qui peut s'appliquer au bien à une personne pour la délivrance de sa vie. C'est ce terme qui passe alors dans le langage religieux, si vous voulez, son usage profane, son usage religieux. On note l'amplification finale où les offenses du verset 3 deviennent toutes ces offenses et où « car avec toi est le pardon » de sorte que tu sois craint qui relaie, qui devient « car avec le Seigneur et la tendresse et abonde avec lui le rachat ». On peut penser, pour l'usage de ce terme théologiquement important, de rachat, de rédemption, à d'autres passages. Par exemple, il y a un verset appendice ajouté au psaume 25, qui est un psaume alphabétique. « Ô Dieu, rachète Israël, délivre-le de toutes ses angoisses. » De même, au psaume 34, « Le Seigneur rachète la vie de ses serviteurs. » Voilà un peu pour ce parcours du psaume. Alors dans le Nouveau Testament et la liturgie, le verset final, « Lui rachètera Israël de toutes ses offenses », trouve un écho en Matthieu 1, 21, c'est l'annonciation à Saint-Joseph. « Et tu lui donneras le nom de Jésus, car car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés, puisque Yeshua veut dire Dieu sauve, littéralement. Et donc Matthieu explicite le sens du nom de Jésus, mais avec cette formule tirée du psaume, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés, c'est lui qui rachètera Israël, enfin proche du psaume, de toutes ses offenses. Et puis, en Tite, la lettre à Tite, parmi les lettres dites pastorales de saint Paul, hein, 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, il s'est donné, le Seigneur, il s'est donné lui-même, afin de nous racheter de toute iniquité et de purifier un peuple qui lui appartient. Cette notion aussi de peuple, ici présent dans la mention d'Israël, réapparaît là. Dans la prière chrétienne, le psaume intervient comme supplique. La voix de ma supplication, mais aussi psaume d'espérance avec cette belle expression, les veilleurs qui attendent le Seigneur comme on attend le matin, célébration de la nativité aussi, dans l'espérance que cette nuit de Noël eh bien, ouvre sur un matin où une vie est apparue, annoncée. Une espérance, célébration de la nativité, avec des commentaires des pères de l'Église, j'espère en sa parole, le choix de ce terme parole, comme pouvant désigner le Verbe incarné lui-même, le roi du salut. Ça se lère aussi, le psaume peut servir aussi pour des démarches pénitentielles, bien sûr, si on propose une célébration pénitentielle, c'est un des psaumes qu'on peut lire, prier ensemble pour se préparer au recevoir le pardon, et pour des funérailles aussi, hein, tout comme le psaume du bon berger pouvait, par la mention des ravins de la mort traversés, on est pour des funérailles, de même le De Profundis est quand même souvent un psaume qu'on prend pour des funérailles, que l'assemblée prend en le priant au nom de celui qui est passé en Dieu, pour demander que Dieu l'accueille dans son royaume au cas de ses faiblesses. Pour ce dernier contexte, vous pouvez, on peut lire sur la feuille du texte, j'ai repris la manière dont Didier Rimaud formule une prière à l'occasion des funérailles, à partir de ce psaume, donc en dessous de l'encadré, hein, juste en dessous. Seigneur, tu veux que subsistent pour toujours ceux que tu as créés. Si tu tenais grief des offenses, qui subsisterait? Traduit-on parfois couramment, bien, à partir de là, tu veux que subsiste pour toujours ce que tu as créé. Nous te confions nos morts. Pour l'amour du Christ, ne retiens pas leurs fautes. Seigneur, en toi se trouve le pardon, verset 4, le rachat, verset 7, 8. La mention de l'amour du Christ, c'était au verset 3 aussi. Nous te confions nos morts, par la grâce du Christ, rachète-les de tous leurs péchés. Seigneur, tu es le Créateur de la vie et de la lumière, nous te confions nos morts, par la victoire du Christ, fais lever sur eux l'aurore qu'ils espèrent.
Ça pourrait être un kyrie pour les funérailles.
Et ça pourrait être un kyrie pour les funérailles. Mmh. Et oui, c'est simple, mais ça recueille des termes du psaume, et d'une part, pour l'amour du Christ, par la grâce du Christ, par la victoire du Christ, c'est quand même ça qui est recueilli. Et de fait, le vocabulaire ne retient pas leur faute, délivre-le de leurs péchés, et fait lever sur eux lever sur lui la lumière éternelle, comme on dit dans les absoutes de funérailles. Voilà une application chrétienne aussi du psaume. Alors, l'introduction et l'oraison du psautier de la Bible de Jérusalem. Oui, l'introduction. Prisonniers de l'abîme de nos péchés, crions vers Dieu notre Sauveur. Il nous a promis la délivrance et le pardon. Sa parole est plus sûre que ne l'est après la nuit le lever du jour. Avec toute l'Église qui attend le retour du Christ, avec tous les défunts qui attendent la plénitude de la lumière, chantons la certitude de notre rédemption. Donc, les introductions de l'abîme de Jérusalem et ses prières ressaisissent toujours le psaume, dans une perspective d'abord marquée par la présence du Christ, qui n'est pas nommé comme tel dans le psaume, et par la dimension ecclésiale. Une christorégulation et une dimension ecclésiale. Dieu de grâce et de pardon, tu as fait lever pour ton peuple l'aurore du salut en envoyant aux hommes ta parole, le Verbe fait chair. En allusion à l'incarnation. Ne nous abandonne pas dans les profondeurs, c'est le premier mot du psaume, des profondis, où nous ont plongé nos fautes, mais écoute le cri de ton Église souffrante. La traduction courante disait des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. L'Église est présente, de ton Église souffrante, et comble son attente par l'abondance de ton rachat. Amen. Voilà pour ce psaume. Donc, après le psaume 51, le psaume de David, un autre psaume, simple mais beau, et qui trouve son usage aussi, notamment dans la liturgie des funérailles. Je vous propose alors de passer au psaume 22, que nous connaissons bien aussi, bien sûr, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Allons voir ce psaume, et si on a le temps, on lira déjà peut-être le psaume 69, car ce sont deux psaumes qui sont décisifs dans le récit de la Passion. Nous voyons Jésus prier ce psaume, Jésus en croix. Donc, je vous invite à prendre la page 30, les commentaires, et nous allons commencer par relire ce psaume 22. Je le prends d'emblée dans la transposition du Père Adermakers, c'est-à-dire le texte qui est repris en encadré. Or encadré, vous voyez qu'il y a le titre, parce que si vous prenez le psautier, souvent c'est ces premières mentions, au maître de chant, sur la biche de l'aurore, ça revient de temps en temps, on pense que c'est la mention d'un air connu. Et donc c'est dit, prenez-le sur la mélodie du chant bien connu, la biche de l'aurore. Le fait ici commence d'emblée, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Mais donc il y a un titre au maître de chant, sur l'air, la biche de l'aurore, psaume de David, attribué à David aussi. En un moment, David a connu un moment des situations où il devait demander pardon, c'était le psaume 51, mais aussi des situations où il était poursuivi par Saül, par son propre fils Jonathan, etc. Donc où il était dans de grandes angoisses. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Loin de mon salut, les paroles de mon rugissement. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. Et la nuit, et pas de silence pour moi. Et toi, le Saint, habitant les louanges d'Israël, en toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les as libérés. Vers toi ils criaient et ils réchappaient. En toi ils se confiaient et ils n'étaient pas confondus. Et moi-même, ver et non pas homme, opprobre d'humain et mépris du peuple. Tout qui me voit, il se gausse de moi, il distende la lèvre, il remue la tête. Pour s'être roulé vers le Seigneur, tourné vers le Seigneur, qu'il le libère, qu'il le délivre, car il se plaît en lui. Car moi, tu m'as extrait du ventre, me confiant aux mamelles de ma mère. Sur toi, je fus jeté hors des entrailles, dès le ventre de ma mère, mon Dieu, toi. Ne sois pas loin de moi, car l'angoisse est proche, car il n'est pas d'aidant, personne ne m'aide. M'entoure des taureaux nombreux, des puissants de Bachan, me couronnent, m'encerclent. Ils dilatent sur moi leur bouche, lions lacérants et rugissants. Comme les eaux, je suis répandu, et se disloquent tous mes os. Il est mon cœur comme la cire, ils font au milieu de mes viscères. il est sèche comme le tesson ma vigueur, et ma langue se fait collant à mon palais. Et vers la poussière de mort tu me déposes, car m'entoure des chiens, conseil de vaurien, il me cerne, comme un lion il déchire mes mains et mes pieds. Je raconterai, je pourrais compter, tous mes os. Quant à eux, ils me toisent, ils me voient. Ils partagent mes vêtements pour eux, et sur mon habit, ils font tomber le sort. Et toi, Seigneur, ne sois pas loin, à mon aide, hâte toi. Délivre de l'épée mon âme, de la patte du chien, mon unique. Sauve-moi de la bouffe du lion et des cornes du buffle, de buffle. Tu m'as répondu. Que je raconte ton nom à mes frères. Au milieu de la communauté, je te louerai. Les craignant Dieu, louez-le. Toute la semence de Jacob, glorifiez-le. Redoutez-le, toute la semence d'Israël. Car il n'a pas méprisé la pauvreté du pauvre. Il n'a pas caché sa face de lui. Et dans son cri vers lui, il entendait. D'auprès de toi, ma louange en communauté nombreuse, mes vœux, je les accomplirai face à ces craignants. Ils mangeront les pauvres, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le recherchent. Qu'ils vivent mon cœur pour toujours. Ils se souviendront et retourneront vers le Seigneur tous les confins de la terre. Ils se prosterneront vers sa face toutes les familles des nations. Car pour le Seigneur, la royauté, il gouverne toutes les dans les nations. Il mange et se prosterne tous les gras de la terre, face à lui se courbent tous les descendants vers la poussière, et son âme pour lui vivra. Leur semence le servira, il sera raconté pour mon Seigneur à la génération. Ils entreprendront et annonceront sa justice au peuple né, car il a fait cela. Transposition un peu littérale, mais vous sentez le mouvement du psaume, de l'angoisse qui l'oppresse, etc. Et puis à un moment donné, il y a cette, au verset 22, tu m'as répondu, hop, le cœur libéré se dilate et commence à chanter le Seigneur. De même que dans le psaume 51, vous vous souvenez, le psaume de David, il demandait pardon, et puis au moment où il a conscience de l'exaucement qu'il reçoit du Seigneur, eh bien, ta louange à mes frères, je les inviterai à entrer aussi dans cette miséricorde. Voilà, donc déjà rien que le lire, vous sentez bien, on perçoit que le psaume est plus parlant que tous les commentaires qu'on peut en faire. Cependant, prenons alors, je suis un peu le commentaire que vous avez sur la page 30. Merci. La situation et le genre du psaume, un beau livre du père Beauchamp s'intitule Psaume nuit et jour. Et vous voyez de fait ici au verset 3, mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, c'est la complainte première, et la nuit, il n'y a pas de silence pour moi. Nuit et jour. Donc ça peut être tiré du verset 3. Mais en même temps, ça rend bien compte du mouvement d'ensemble. On est dans la nuit, et puis à un moment donné, à partir de la réponse, on revient au jour et à la lumière. Le verset 3 du psaume, lequel psaume passe cette fois-ci pour son ensemble de la nuit, de la foi au jour retrouvé. Il décline d'abord une plainte et un appel qui sont poignants. Je vous le disais, ce n'est plus la supplique d'un pécheur, dans le psaume 51, le De Profundis, mais le cri d'un éprouvé extrême, un peu comme Job, dans le livre de Job dans l'Ancien Testament. Alors qu'il a conscience d'être innocent, eh bien, il éprouve tout le malheur qui s'abat sur lui, il ne peut que crier vers Dieu. Mais on peut penser... Si vous pensez aux Juifs qui étaient dans les camps de concentration et dans les chambres à gaz, qui connaissaient leur psautier, c'est sûr que c'est vraiment un cri. C'est le cri du Christ en croix. Pour passer ensuite, consoler à l'annonce du secours obtenu. Revirement qui est amené par son exaucement. D'où l'application du psaume par le Nouveau Testament à la passion-résurrection du Christ autour de son cri en croix. Le psalmiste s'exprime en je, jusque dans la section finale, où alors il se tourne vers la communauté. Alors, mes frères, ma louange en communauté, mais c'est son je qui continue à résonner, j'accomplirai mes voeux, et à ce moment-là, il sera raconté pour mon Seigneur, hein, le verset 31, à la génération qui vient. Voilà un peu la situation et le genre globalement du psaume. Alors il y a deux hésitations textuelles que je signale. Au verset 30 à 32, vous pouvez aller voir les notes des Bibles, entre autres, « Mon âme vivra pour toi, pour lui, pardon, hein, qu'on trouve dans certains manuscrits et le grec, semble peut-être une retouche apportée en vertu de la foi en la résurrection. » Déjà la résurrection du Christ. Hein. Déjà, vous savez que les pharisiens croyaient en la résurrection. Donc, déjà, en fonction de la foi, la résurrection finale, du moins, dans le judaïsme, dans une part du judaïsme, eh bien, il y a peut-être eu une retouche dans le sens, dans ce sens-là. Plus décisive est la question du verset 22b. 22b, la finale, le fameux fait « Tu m'as répondu » où textuellement aussi on peut un peu hésiter. Alors, le psautier liturgique, Jean Radermakers et Didier Rimaud se conforment au texte massorétique, ça veut dire le texte hébraïque fixé par les spécialistes de l'hébreu, au texte massorétique, et avec eux on retient la traduction « Arrache-moi à la gueule du lion et aux cornes des buffles, et puis tu m'as répondu. » Ça, c'est quand même le texte hébraïque. Tandis qu'à partir de certaines traductions, la Bible de Jérusalem et Dorme lise « Sauve-moi de la gueule du lion et ma pauvre personne des cornes des buffles. » Ça fait sens aussi, mais on voit mieux qu'en optant pour « Tu m'as répondu », on comprend mieux que tout d'un coup, on passe « Que je raconte ton nom à mes frères ?» On n'est plus dans la formule de transition. Alors, Dorme argumente, ça je laisse tomber, c'est un peu plus technique. Je reviens à la portion de texte en grand caractère. Il faut mieux garder cette exclamation de l'exaucé, l'exclamation « Tu m'as répondu » d'un coup, il faut mieux garder cela, qui est d'ailleurs motivée au verset 25. Tu m'as répondu, car il n'a pas méprisé la pauvreté du pauvre, il n'a pas caché sa face, et dans son cri, il entendait. D'où l'exclamation à un moment donné, tu m'as répondu. Et avec Ibn Ezra, qui est un grand rabbin du XIIe siècle, il est considéré comme une grande autorité du rabbinisme médiéval. Nous comprenons que Dieu a exaucé le psalmiste, l'acte de la tombe. La structure et le mouvement du texte, je reprends l'encadré, le psaume part d'une triple invocation initiale, mon Dieu, hein, mon Dieu, mon Dieu, et c'est ce qui est repris, Élie, Élie, hein, le ma azaphtani dans l'hébreu, la ma azaphtani dans le... fatigué. La langue courante par le grec, la langue que parlait Jésus avec ses disciples, l'araméen. Voilà, ça revient. On a c'est pour expliquer que dans l'évangile, on a les paroles retranscrites d'après l'araméen que Jésus a dû dire. Tandis que dans l'hébreu, c'est le même mot, hein, mais il y a une petite différence. Donc, on part du double cri, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, loin de moi, mon salut, et puis mon Dieu, je crie tout. Donc on part de cette triple invocation importante, Dieu, pour dire pourquoi, hein, c'est vraiment deux mots, pour quelle raison, à l'appellation, alors, mon Seigneur, qui vient à la fin, 31. Donc, il y a deux endroits où, en disant mon, Hein, c'est pour dire mon Dieu d'une part et mon Seigneur à la fin au verset 31. Donc, entre ces manières de se tourner vers Dieu de manière personnelle, mon Dieu, mon Seigneur, on a le psaume en deux grandes parties. Une première, des versets 2 à 22, et qui fait passer du cri rugissant, loin de mon salut, les paroles de mon rugissement. Là, c'est un rugissement de détresse, tandis que, au verset 14, c'est les rugissements de ses adversaires. En contraste, hein, lion, lacérant et rugissant. Mais là, on part du cri rugissant et de la plainte désemparée. Hein, tu ne réponds pas, c'est vraiment la nuit de la foi. À l'affirmation pacifiée, au verset 22, tu m'as répondu. Donc, entre ce constat, désolé, tu ne réponds pas, le verset 3, et puis l'affirmation, tu m'as répondu, ainsi se déploie la première partie, les versets 1 à 22. Ensuite, il y a le revirement, et vient le second ensemble, des versets 23 à 32. Là, on sent bien que c'est une section de louange. Elle est encadrée de verset 23, « Que je raconte ton nom à mes frères. » Et au verset 31, « Il sera raconté pour mon Seigneur à la génération. » Donc, c'est des mots, si vous voulez, typiques qui font un peu inclusion. Vous voyez que dans la première partie, l'inclusion, c'est de « tu ne réponds pas, tu m'as répondu ». Les sous-parties de la première partie, c'est-à-dire entre 2 et 11, l'encadrement se fait par « mon Dieu ».« mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et puis au verset 11, la fin, « dès le ventre de ma mère, mon Dieu, c'est toi ». Ça, c'est l'encadrement des versets de la sous-partie 2 à 11. L'encadrement de la partie 12 à 22, on verra en son temps. Et l'encadrement de notre partie finale 23 à 31 est à l'enseigne du désir de publier les merveilles que je raconte. Il sera raconté, et là on est dans le registre pour cette dernière partie de la louange. Ils annonceront, et à des destinataires élargis, à toute la semence d'Israël ou de Jacob. Les versets 2 à 22, vous les esquissez, se subdivisent eux-mêmes en deux temps. D'abord de 2 à 11, on voit alterner la plainte présente et l'évocation du passé. Le psalmiste se rappelle que d'autres dans le peuple ont été dans la détresse et que Dieu les a libérés. Et donc il rappelle cela au Seigneur. Nos pères se confiaient en toi, ils se confiaient, et toi, tu les as libérés, ils criaient, ils réchappaient. Ils se sont entendus, et moi, maintenant, je crie vers toi, et bien, fais la même chose que tu as déjà fait pour ton peuple, libère-moi. Donc, sa situation présente, au rappel du passé, mais pour se fonder sur ce que Dieu a déjà fait, il peut encore le faire. Et de manière encore plus, dans une situation plus dramatique, et de manière... son exaucement se déploie encore plus. Donc, on alterne la plainte présente et l'évocation du passé, le passé du peuple, mais aussi le passé du psalmiste. C'est toi qui m'as extrait du ventre, confiant en mamelle de ma mère. C'est toi qui m'as amené à la vie, alors est-ce que tu vas me laisser mourir maintenant? C'est ça qu'il sous-entend. Hein? Dès le ventre de ma mère, c'est toi, mon Dieu. Donc, on alterne la plainte présente, l'évocation du passé, celui du peuple, celui du psalmiste. La finale est reprise, est marquée par la reprise du mon Dieu initial, c'est à la fin du verset 11. Le psalmiste passe d'un cri de détresse premier à la relecture de l'histoire des pères d'Israël exaucés, puis à l'évocation de ce qu'ils souffrent présentement. Et moi, je suis un ver, non pas un homme, un propre, un mépris du peuple, etc. Et enfin, comme socle de son appel au secours, qui est toujours marqué par un car. Il est souligné là au verset 10, car toi, il fonde la raison de sa confiance. Car c'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère, et au rappel de son être en Dieu, qui est dès l'origine de sa vie. L'ensemble alors des versets 12 à 22, jusqu'à l'exclamation « Tu m'as répondu », il est à l'enseigne, lui, des appels qui l'encadrent, c'est-à-dire au verset 12 « Ne sois pas loin », et puis au verset 20, c'est repris vers la fin de cette section, « Et toi, Seigneur, ne sois pas loin ». C'est ça le motif qui littéraire, si vous voulez, la demande qui encadre. « Ne sois pas loin de moi, car l'angoisse est proche ». Alors, l'angoisse, elle est proche, eh bien, tiens-toi proche, toi aussi, hein, au verset 12. Donc, on lançait des appels qui l'encadrent, « Ne sois pas loin, viens à mon aide, hâte-toi », qui font écho à la plainte initiale. Il avait quand même déjà dit au verset 2, le salut, il est loin de mon salut, les paroles de mon rugissement. Le salut, il paraît loin. Eh bien, cette fois-ci, c'est demandé de manière directe, ne sois pas loin, ne sois pas loin, Seigneur. Le premier appel s'amplifie dans l'évocation qui est imagée de manière crue de l'hostilité qui est soufferte, qui est pâtie. Au verset 13, 14, m'entoure des taureaux nombreux, des puissants de Bashan. Bashan, c'était une région du côté de l'autre côté du lac, en Galilée, où il y avait des gras pâturages, où on avait des vaches et des taureaux de forte carrure. Quand on parle des bêtes de Bashan, on parle de bêtes impressionnantes. Voilà. M'entoure des taureaux nombreux, des puissants de Bashan me couronnent, m'enserrent, ils dilatent sur moi leur bouche. Et puis, non seulement des taureaux, des vaches malveillantes, mais des lions. Donc, des images fortes. C'est explicite alors dans la double imploration « Délivre mon âme de l'épée et sauve-moi de la bouche du lion ». C'est repris au verset 22-23. Et au passage, on demande à Dieu de démentir les railleries du verset 9. Vous vous souvenez, il s'est tourné vers le Seigneur, ben, qui le libère, qui le délivre, s'il se plaît en lui. Eh bien, au verset 22-23, on demande à Dieu de délivrer de ces railleries. Au centre de cette section, alors je vous invite à prendre la page où il y a une série de petits encadrés qui aident à percevoir la construction de sous-ensemble. Vous voyez, la page, j'ai disposé des portions du texte avec des petits encadrés. Si vous regardez l'encadré en haut à gauche, c'est l'encadré qui reprend les versets de 12 à 22, la section centrale là, du psaume, si vous voulez. Vous voyez, aux extrêmes, « Ne sois pas loin », c'est proche, au verset 12. « Ne sois pas loin », au verset 20. Et puis, les taureaux et les lions, au verset 13-14, et qui reviennent au verset 17, hein, le chien malfaisant, des bêtes malfaisantes. Et, de part et d'autre, de la mention centrale, tu me réduis à la poussière de la mort, là, c'est pas simplement un danger, il y a danger de mort, littéralement, tu me réduis à la poussière. Autour de cette mention de la crainte de la mort, il y a convoqué toutes les parties du corps, toutes les mentions corporelles, mes os, mon cœur, mes viscères, mon palais, ma langue, mes mâchoires, mes mains, mes pieds, tous mes os, etc. Et donc on voit le Christ en croix, ils ont percé mes mains et mes pieds, enfin c'est tout. Tout son corps qui se disloque, qui pâtit. Le psaume est très empreint de cette prégnance corporelle, si je puis dire. Mm. Et au milieu, tu me réduis, tu me déposes dans la poussière de la mort. Dans les versets 15, je lis les deux dernières lignes de cette page 30, dans les versets 15 à 19, la souffrance déshumanisante est palpable, j'ai mis somatiquement, corporellement. Entre les métaphores, qui sont des comparaisons implicites, c'est-à-dire on dit des bêtes me servent des taureaux, ça veut dire mes adversaires, ils sont comme des bêtes, comme des taureaux. Hein. Et par contre, il y a d'autres passage où la comparaison est explicitée, ce n'est pas simplement une métaphore. Dans cette section, on a les termes d'un bestiaire cruel, hein, les taureaux, les bêtes de Bashan, les chiens, etc., qui encadrent le cri « Ne sois pas loin, viens vite à mon aide ». Ça, c'est le petit encadré. Vous avez dans la partie de droite au milieu, marqué d'une astérisque là. Vous voyez, petit encadré dans la partie de droite de la feuille, un petit encadré central. Ne sois pas loin, etc. Et puis, de part et d'autre, les questions de taureau, de lion, de chien, de lion, de buffle. Et au milieu, ne sois pas loin, vite en aide, cerné, puis ce sang. Les versets 23 à 32, ça, c'est l'encadré que vous avez dans la partie de droite en bas. Je raconterai ton nom à mes frères. De tonalité toute positive, cette fois, ce volet du psaume passe à la louange que l'auteur se propose d'exprimer et à laquelle il invite ses frères juifs ou craignant Dieu. D'abord, avant de promettre au futur l'extension spatiale jusqu'aux confins des nations de la terre, régie par Dieu souverain, et dans le temps pour la suite des générations. Donc on sent un élargissement final, là. Dans cette section, le tétragramme qui désigne Dieu revient à de multiples reprises. Si le psaume ne dit pas quelle a été la réponse de Dieu, tu m'as répondu, ça suffit, il n'y a pas besoin de préciser le type de réponse. Hein. Tout comme Didier Rimaud, le moment de la résurrection ne nous est pas directement accessible, il montre quels sont les effets de sa réponse. À savoir, le retour à la parole, et une parole bien autre qu'un cri rugissant, la retrouvaille des frères, un grand mouvement de transformation qui intéresse tous les hommes, à commencer par les plus pauvres. Tu m'as répondu, eh bien, oui, comme dit saint Ignace, la résurrection, elle ne se rend pas par ses divins effets. On ne voit pas le moment de la résurrection, mais les apôtres, dans les apparitions, le constatent par les effets de la résurrection. De même, on n'entend pas les termes de la réponse, hein, mais on comprend que Dieu a répondu et on le voit à l'effet transformateur dans la conscience du psalmiste et son désir de partager cette bonne nouvelle. Trois quarts motivent ici la louange du psalmiste, au verset 25, 29, 32, car il n'a pas méprisé la pauvreté du pauvre, il n'a pas caché sa face dans son cri vers lui, il entendait. Et puis le motif pour l'adorer, car pour le Seigneur est la royauté. Et enfin, la motivation dans tout l'agir du peuple, il a fait cela, et pour les pères jadis, comme il le disait au début, tu les exaucés, et pour le serviteur souffrant, qui était devenu mépris du peuple, eh bien Dieu a engendré un peuple né, au verset 32. Peuple né, comme en écho à la mention que le psalmiste faisait de sa propre naissance, du sein de sa mère. Donc c'est comme s'il le faisait renaître, et le peuple, en parlant, renaît. Dans le Nouveau Testament et la liturgie, jusque dans la bouche de Jésus, en sa passion, ces reprises sont bien connues. Elles se trouvent essentiellement dans le récit de la passion, en Matthieu 27 et ses parallèles, en Marc et Luc, ainsi qu'en Jean 19. Si vous parcourez, vous trouverez les références à tel verset du psaume en Marc dans vos Bibles. Autour des versets spécialement 2, je les relis, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» bien sûr. Le verset 8, « tous ceux qui me voient se moquent de moi. » Il secoue la tête, il hoche la tête, etc. C'est présent dans le texte du Nouveau Testament. 8, 9. La raillerie aussi, « il s'est tourné vers Dieu, qu'il le libère, qu'il le délivre. » Le verset 16 à 19 aussi, ma langue est sèche, elle colle à mon palais, et ma vigueur se dessèche comme un tesson, tu me déposes dans la poussière de l'âme. Par ailleurs, le Hébreu 2, 12 reprend le verset 23, « J'annoncerai ton nom à mes frères, Et il le fait après avoir évoqué la mort soufferte par le Christ. Et en Hébreu 5, on dit le Christ, au fils qu'il était, a souffert les souffrances de sa passion. Il a crié vers Dieu et il a écouté quand il criait vers lui. C'est que l'Hébreu reprend en disant le Christ a supplié avec un grand cri et des larmes et il fut écouté. Non pas qu'il ait échappé à la mort physique, mais il en était relevé dans sa résurrection. Il était. Les chants du serviteur d'Isaïe affleurent ici ça et là. Ce psaume est prié comme il convient un vendredi, le vendredi de la troisième semaine, lors du dimanche des rameaux dans la messe de la Passion, et pour sa section finale, plus de louanges et d'exultation, il est repris au cinquième dimanche de Pâques à l'année B. Citons Didier Rimaud relativement aux deux versants du psaume. Donc d'abord la supplique puis l'exaucement, parce que Jésus de Nazareth s'est reconnu dans la figure de celui qui avait dit ce poème, au point d'en faire sa propre prière sur la croix, chacun peut aujourd'hui, avec les mots du psaume, revêtir les sentiments du Christ à l'heure de son passage vers le Père. Disant le psaume, l'Église tout entière prend dans sa prière les cris de toute l'humanité qui affronte le mystère de la mort afin de les tourner vers le Père par le Christ, avec lui et en lui. Donc les mots du psalmiste, parce qu'ils ont été de manière imminente ressaisis par Jésus, deviennent les mots pour ceux qui adhèrent à Jésus, qui leur sont donnés pour traverser aussi la souffrance et prier avec tous les souffrants au nom même de Jésus. Les effets de la résurrection, la communauté des frères, l'Église en état de louange, la joie, la naissance d'un peuple de sauvés, la venue du règne de Dieu sur la terre, le triomphe partout de la vie qu'il emporte sur la mort. Il résume un peu la partie finale. Enfin, la prière, nous terminons par là, la prière proposée par le psautier de la Bible de Jérusalem, Dieu de sainteté, donc il y a toujours cette investissement de ces prières par la personne du Christ et la réalité de l'Église. Alors, Dieu de sainteté, par les souffrances de ton propre Fils, livré à ses bourreaux et pendu sur une croix comme abandonné de son Père, tu as fait mourir la mort et naître la vie. Donne-nous, c'est le nous ecclésial, donne-nous de reconnaître dans sa passion et sa résurrection le salut des pauvres et la délivrance des nations, vers la finale, verset 29, pour qu'à l'action de grâce du Christ vivant parmi les siens réponde l'Alléluia de l'Église dans les siècles des siècles. Amen. On comprend que cette finale du psaume soit reprise dans la liturgie, je le disais, pour le cinquième dimanche de Pâques. Amen. Voilà. Merci de votre attention. Merci.